Comme je l'ai dit dans le préambule à Batman et Robin, il arrive parfois, très rarement, que la tasse vienne avec l'anse. Bon Dieu, j'adore quand ça arrive. Tu es là en train de vaquer à tes petites affaires, tu ne penses à rien en particulier, et puis soudain, boum, une histoire t'arrive, parfaite et entière, en livraison express. La seule chose que tu as à faire, c'est de la transcrire. J'étais en Floride, je promenais notre chien sur la plage. Comme on était en janvier et qu'il faisait froid, il n'y avait personne d'autre que moi. Un peu plus loin devant, j'ai vu ce qui ressemblait à des écritures dans le sable. En me rapprochant, j'ai vu que ce n'était qu'une illusion due à la lumière du soleil et aux ombres. Mais l'esprit d'un écrivain est un dépotoir d'informations bizarres, et une vieille citation m'est revenue. Sans le nom de son auteur, il s'avéra que c'était Omar Khayyam. Le doigt mouvant écrit, et ayant écrit, passe. Ce qui, à son tour, m'évoqua un endroit magique où un doigt mouvant invisible écrirait des choses terribles dans le sable, et voilà, la nouvelle qui suit était là. Sa fin est l'une de mes préférées, peut-être pas du même calibre que celle de Chaleur d'août de W.F. Harvey, celle-là est un classique, mais dans la même veine. La dune. Alors que le juge monte dans le kayak, sous un ciel matinal éclatant, une entreprise lente et maladroite qui lui prend près de 5 minutes, il médite sur le fait que le corps d'un vieil homme n'est qu'une charge de douleur et d'affront. Il y a 80 ans, quand il avait 10 ans, il sautait dans un canot en bois et larguait les amarres, sans gilet de sauvetage encombrant, sans souci et assurément sans urine gouttant dans son slip. Chaque traversée jusqu'à la petite île sans nom, étendue là comme un sous-marin à moitié immergé à 200 mètres au large dans les eaux du golfe, s'accompagnait d'une immense et inconfortable excitation. À présent, ne reste que l'inconfort. Et la douleur, comme irradiant dans tout le corps depuis un centre profondément enfoui dans son ventre. Mais il continue d'y aller. Beaucoup de choses ont perdu de leur attrait en ces années obscures de fin de vie, la plupart des choses, mais pas la dune de l'autre côté de l'île. Non, jamais la dune. Au premier jour de ses explorations, il s'attendait à la trouver disparue après chaque grosse tempête et après l'ouragan de 1944 qui avait fait sombrer l'USS Warrington au large de Vero Beach, il en était persuadé. Mais lorsque le ciel s'était éclairci, l'île était toujours là. La dune aussi, alors que les vents soufflant à 160 km/h auraient dû balayer tout le sable, ne laissant que les rochers à nu et des boules de corail. Au fil des années, il n'a cessé de se demander si la magie était en lui ou dans l'île. Peut-être les deux, mais une chose est sûre, elle réside principalement dans la dune. Depuis 1932, il a traversé cette courte étendue d'eau des milliers de fois. La plupart du temps, il ne trouve là-bas que des rochers, des broussailles et du sable, mais parfois il y a autre chose. Enfin installé dans le kayak, il pagaie lentement de la plage à l'île, ses frisottis de cheveux blancs voltant autour de son crâne quasiment chauve. Quelques vautours au ras tournoient dans le ciel en se livrant à leur horrible conversation. Autrefois, il avait été le fils de l'homme le plus riche de tout le golfe de Floride, avant de devenir avocat, puis juge assigné au comté de Pinellas, et enfin d'être nommé à la Cour suprême de l'État de Tallahassee. Du temps de l'administration Reagan, il avait été question d'une nomination à la Cour suprême des États-Unis, mais ça n'avait jamais abouti, et une semaine après l'élection à la présidence de cet imbécile de Clinton, le juge Harvey Beecher, juste le juge pour ses nombreuses connaissances, il n'a aucun véritable ami de Sarasota, Osprey, Nokomis et Venice, avait pris sa retraite. Bigre, il n'avait jamais aimé Tallahassee de toute façon. Il fait trop froid là-haut. Et puis, c'est trop loin de l'île et de sa dune singulière. Lors de ses sorties matinales en kayak, pagayant sur la petite étendue d'eau calme, il est prêt à admettre qu'il y est accro. Mais qui ne serait pas accro à une chose pareille? Du côté oriental rocheux de l'île, un arbuste noueux émerge d'une fente dans un rocher couvert de guano. C'est là qu'il accoste, en veillant toujours à bien s'amarrer. Ça ne serait pas une mince affaire de rester coincé ici. La propriété de son père, c'est encore en ces termes qu'il y pense, bien que le vieux Beecher soit mort depuis 40 ans maintenant, s'étend sur près de 4 km de front de mer en bordure du golfe, mais la maison principale est plus loin à l'intérieur des terres, côté baie de Sarasota, et il n'y aurait personne pour l'entendre appeler à l'aide. Tommy Curtis, le gardien, pourrait remarquer son absence et venir voir, mais plus vraisemblablement, il supposerait que le juge est enfermé dans son bureau, où il passe souvent des jours entiers à prétendument travailler sur ses mémoires. Il fut un temps où Madame Riley aurait pu s'inquiéter s'il n'était pas sorti de son bureau pour déjeuner, mais à présent, il ne mange pratiquement plus le midi. Elle dit, bien que jamais devant lui, qu'il est maigre comme un clou. Il n'y a pas d'autre employé, et Curtis et Madame Riley savent tous deux qu'il n'aime pas être interrompu dans son travail. Non pas qu'il y ait grand-chose à interrompre, en 2 ans, il n'a pas ajouté la moindre ligne à ses mémoires, et au fond de lui, il sait qu'il ne les finira jamais. Les mémoires inachevées d'un juge de Floride? Rien de bien tragique là-dedans. La seule histoire qu'il pourrait raconter est celle qu'il n'écrira jamais. Il est encore plus lent à s'extraire du kayak qu'à s'y installer. Il chavire même une fois, mouillant sa chemise et son pantalon dans les petites vagues qui lèchent la plage de galets. Il n'en est pas incommodé. Ce n'est pas la première fois qu'il tombe à l'eau, et personne n'est là pour le voir. Il s'imagine qu'il est fou de continuer ses traversées à son âge, même si l'île est toute proche du continent, mais les interrompre est une solution inenvisageable. Une addiction est une addiction, point. Beecher lutte pour reprendre pied et étreint son ventre le temps que la douleur s'atténue. Il balaie le sable ainsi que quelques petits coquillages de son pantalon, vérifie une dernière fois sa corde d'amarrage, puis repère l'un des vautours perché sur le plus gros rocher de l'île, le regard fixé sur lui. « Oust !» s'écrie-t-il de cette voix qu'à présent il déteste, cassée, tremblotante, la voix d'une vieille mégère en robe noire. « Oust ! Oust ! Salopieux de malheur ! Va t'occuper de tes affaires !» Après avoir brièvement ébouriffé ses ailes déguenillées, le vautour reste exactement où il est. Ses yeux perçants semblent dire « Mais, monsieur le juge, aujourd'hui, c'est vous mon affaire !» Beecher se penche, ramasse l'un des plus gros coquillages et le lance vers l'oiseau. Cette fois-ci, le vautour s'envole, le bruit de ses ailes évoquant un froissement de tissu. Il survole la courte étendue d'eau et va se poser sur son débarcadère de l'autre côté. « Mauvais présage, » se dit le juge. Il se souvient de Jimmy Canslow, de la police d'État de Floride, lui racontant que les vautours ne savent pas seulement où se trouve une charogne, mais où la charogne va se trouver. « Si vous saviez le nombre de fois, » lui avait dit Canslow, « où j'ai vu ces affreuses bestioles tournoyer au-dessus de la Tamiami Trail, pile à l'endroit où, un jour ou deux plus tard, on a eu un accident mortel. » Ça semble fou, je sais, mais demandez à n'importe quel flic de Floride, tous vous diront la même chose. Ici, sur la petite île sans nom, il y a presque toujours des vautours. Le juge Beecher présume que pour eux, elle doit sentir la mort, et pourquoi pas. Il s'engage sur le petit sentier qu'il a si souvent emprunté au fil des années. Il va aller vérifier la dune de l'autre côté, là où la plage est de sable fin et non pas de galets et de coquillages, et puis il retournera au kayak et boira sa petite gourde de thé froid. Il s'assoupira peut-être sous le soleil du matin, il s'assoupit souvent ces temps-ci, comme la plupart des nonagénaires, présume-t-il. Et quand il se réveillera, s'il se réveille, il attaquera le trajet du retour. Il se dit que la dune ne sera qu'une colline de sable lisse et vierge, comme elle l'est la plupart du temps, mais il n'est pas tombé de la dernière pluie. Le maudit vautour non plus. Il reste un long moment du côté sablonneux de l'île, ses doigts tordus par la vieillesse nouée derrière lui. Son dos le fait souffrir, ses hanches le font souffrir, ses genoux le font souffrir. Son ventre, plus que tout, le fait souffrir. Mais il n'y prête aucune attention, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Il regarde la dune et ce qui y est écrit. Anthony Wayland arrive à Pelican Point, la propriété de Beecher, à 19h pétante, comme promis. Une chose que le juge a toujours appréciée, autant dans la salle d'audience qu'au dehors, c'est la ponctualité. Et ce garçon est ponctuel. Le juge Beecher se répète qu'il doit éviter d'appeler Wayland « garçon » en sa présence, encore que, puisqu'ils sont dans le sud, « fils » conviendrait. Wayland ne comprendrait pas que, quand on a 90 ans, tout individu de moins de 60 ans ressemble à un garçon. « Merci d'être venu, » dit le juge en conduisant Wayland dans son bureau. Ils sont seuls. Curtis et Madame Riley sont depuis longtemps rentrés chez eux à Nokomis Village. Vous avez apporté les documents nécessaires? Tout à fait, monsieur le juge. Wayland ouvre sa grande mallette carrée d'avocat et en sort un épais dossier fermé par une grosse pince en métal. Les pages ne sont pas en papier vélin comme elles l'auraient été dans le temps, mais elles sont tout aussi soyeuses et épaisses. En haut de la première page, en lettres larges et sinistres qui ont toujours évoqué pour le juge Beecher des lettres de stèle funéraire, figurent les mots « Testament de Harvey L. Beecher ». Pour tout vous dire, je suis un peu étonné que vous ne l'ayez pas rédigé vous-même. Vous en avez sûrement oublié davantage en matière de droit des successions que je n'en ai jamais appris.
« Ça se pourrait en effet », répond le juge de son ton le plus sec. « Les vieux de mon âge ont tendance à oublier pas mal de choses. »
Wayland rougit jusqu'à la racine des cheveux.
« Ce n'est pas ce que je sais, fils, » dit le juge. « Il n'y a pas de mal. Mais puisque vous soulevez la question, vous connaissez ce vieux dicton qui dit qu'un homme qui décide d'être son propre avocat a un imbécile pour client ?»
Wayland arbore un large sourire.
« Je l'ai non seulement entendu, mais utilisé plein de fois quand je porte ma casquette de commis d'office et qu'un pauvre type accusé de violence conjugale ou de délit de fuite me dit qu'il veut se la jouer solo au tribunal. Je n'en doute pas une seconde, mais voici la version complète. Un avocat qui décide d'être son propre avocat a un gros imbécile pour client. C'est valable pour le pénal, le civil et les successions. Alors, mettons-nous au travail, voulez-vous ? Le temps presse. Et c'est quelque chose qu'il pense bien plus qu'il n'y paraît. Ils se mettent au travail. Madame Riley a laissé du café décaféiné que Wayland décline pour lui préférer un coca. Il prend de copieuses notes pendant que le juge lui dicte de son ton sec de salle d'audience des modifications à apporter, rectifiant de vieux legs et en ajoutant de nouveaux. Le plus conséquent, 4 millions de dollars, ira à l'Association de protection de la faune et de la flore côtière du comté de Sarasota. Afin de pouvoir bénéficier de cette donation, l'association en question devra obtenir de la législature de l'État de Floride qu'une certaine petite île au large de Pelican Point soit déclarée réserve naturelle permanente. « Ils n'auront aucun problème à l'obtenir, » dit le juge. « Vous pourrez vous occuper de l'aspect juridique pour eux. Je préférerais que ce soit pro bono, mais bien entendu, c'est vous qui décidez. Ça devrait être réglé en un aller-retour à Tallahassee. Ce n'est qu'une petite bande de terre. Il n'y pousse rien d'autre que des buissons. Le gouverneur Scott et ses petits copains du Tea Party seront ravis.
Et pourquoi cela, monsieur le juge?
Parce que la prochaine fois que la protection de la faune et de la flore viendra leur quémander de l'argent, ils pourront dire « Le vieux juge Beecher ne vient-il pas de vous donner 4 millions? Foutez-moi le camp d'ici et faites attention de ne pas vous prendre la porte dans le cul en sortant. »
Wayland convient qu'il en ira probablement ainsi. Et les deux hommes passent au leg moins important du testament.
Une fois que j'aurai mis ça au propre, il nous faudra deux témoins et un notaire, dit Wayland, lorsqu'ils en ont terminé. Je vais garder cette version-là juste par précaution, dit le juge. S'il m'arrive quoi que ce soit entre-temps, ce document devrait faire l'affaire. Il n'y aura personne pour le contester, je suis le dernier de la lignée.
C'est une sage précaution, monsieur le juge. Il serait même bon de s'occuper de ça dès ce soir. Mais j'imagine que votre gardien et votre femme de ménage ne reviendront pas avant 8 heures demain matin, dit Beecher. Mais j'en ferai ma priorité. Harry Staines, sur Varma Road, est notaire et il se fera un plaisir de passer ici avant d'aller à son bureau. Il me doit quelques faveurs. Donnez-moi ce document, fils. Je vais le mettre en lieu sûr dans mon coffre.
Il faudrait au moins que j'en fasse.
Wayland regarde la main noueuse tendue vers lui et s'interrompt. Quand un juge de la Cour suprême d'État, même retraité, tend la main, toute objection est vaine. Et puis après, ce n'est qu'un brouillon à noter de toute façon qui sera bientôt remplacé par une version propre et définitive. Il remet donc le testament non signé à Beecher et le regarde se lever, douloureusement, et faire pivoter une photo des Everglades de Floride sur un gond invisible. Le juge entre la combinaison du coffre, sans faire le moindre effort pour cacher l'écran tactile, et dépose le testament au sommet de ce qui semblerait être une montagne désordonnée de billets.
Cloups.
Et voilà, dit Beecher, une bonne chose de faite, si l'on accepte la signature, bien sûr. Et si l'on a rosé ça, j'ai un excellent scotch single malt.
Ma foi, j'imagine qu'un petit verre ne peut pas faire de mal.
Ça ne m'a jamais fait de mal, quoique ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Vous m'excuserez donc de ne pas me joindre à vous? Ce que je bois de plus fort désormais, c'est le café décaféiné et le thé sucré. Problème d'estomac. Glaçon?
Wayland lève deux doigts et Beecher ajoute deux glaçons à son verre avec la méticuleuse lenteur de la vieillesse. Wayland en boit une gorgée et le rouge lui monte immédiatement aux joues.
C'est là le teint d'un homme qui aime bien picoler, se dit le juge Beecher. Reposant son verre, Wayland dit
Vous permettez que je vous demande ce qui presse autant? Vous vous portez bien si je ne m'abuse, problème d'estomac mis à part. » Le juge doute que le jeune Waylon s'abuse, il n'est pas aveugle. « Comme un charme, » répond-il, en agitant une main et en se rasseyant avec un grognement et une grimace. Puis, après réflexion, il dit « Vous voulez vraiment savoir ce qui presse ?» Waylon réfléchit à la question, ce que Beecher apprécie, puis il acquiesce. « C'est en rapport avec cette île dont nous venons juste de nous occuper. Vous ne l'avez probablement jamais remarqué, n'est-ce pas ?»« On ne peut pas dire le contraire. » »« La plupart des gens ne la remarquent pas, c'est à peine si elle dépasse de l'eau. Même les tortues de mer ne s'enquiquinent pas avec cette vieille île, et pourtant, elle est spéciale. Saviez-vous que mon grand-père a fait la guerre hispano-américaine ?»« Non, monsieur, je ne le savais pas. » Wayland parle avec un respect exagéré, et Beecher sait que le garçon croit qu'il s'égare. Le garçon a tort. Beecher n'a jamais eu les idées aussi claires, et maintenant qu'il est lancé, il se rend compte qu'il souhaite raconter cette histoire au moins une fois avant... Eh bien, avant. Si, j'ai une photo de lui sur les collines San Juan. Elle est quelque part par là. Grandpa affirmait avoir fait la guerre civile également, mais mes recherches, pour mes mémoires, vous comprenez, ont prouvé que c'était tout bonnement impossible. Il aurait été un bambin à supposer qu'il eût été né. Mais c'était un gentleman tout à fait fantasque, et il avait le don de me faire croire aux histoires les plus folles. C'est que je n'étais qu'un enfant, pas loin de croire encore au Père Noël et à la petite souris. Était-il avocat comme vous et votre père? Non, fils, il était voleur. Le vrai pickpocket Harry. Il faisait main basse sur tout ce qu'il pouvait. Seulement, comme la plupart des voleurs qui ne se font pas attraper, notre gouverneur actuel en est peut-être un parfait exemple, il se disait homme d'affaires. Sa spécialité en matière de business et d'escroquerie, c'était la terre. Il achetait des terrains infestés de moustiques et d'alligators pour une bouchée de pain et les revendait à prix d'or à des gens probablement aussi naïfs que moi quand j'étais petit. Balzac a dit « Derrière chaque grande fortune se cache un crime ». C'est assurément vrai de la famille Beecher et je vous rappelle que vous êtes mon avocat. Tout ce que je vous dis doit rester confidentiel. Oui, monsieur le juge. Wayland prend une autre gorgée de scotch. C'est de loin le meilleur qu'il ait jamais goûté. C'est Grandpa Beecher qui m'a parlé de cette île. J'avais 10 ans. J'étais sous sa garde pour la journée. Je suppose qu'il avait envie d'un peu de calme et de répit. Ou peut-être que ce qu'il désirait était légèrement plus bruyant. Nous avions une jolie bonne. Et il se peut qu'il ait caressé l'espoir d'aller explorer sous ses jupons. Alors, il m'a raconté qu'Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, y avait prétendument enterré un grand trésor. « Personne ne l'a jamais trouvé, Heavy, » m'a-t-il dit. « C'est comme ça qu'il m'appelait. Mais peut-être que toi, tu le trouveras. Une fortune en bijoux et en doublons d'or. J'imagine que vous savez ce que j'ai fait ensuite. Vous y êtes allé, vous avez laissé votre grand-père remonter le moral de la bonne ?» Le juge hoche la tête en souriant. J'ai pris le vieux canoë en bois que nous gardions attaché au débarcadère. J'ai filé comme si j'avais le feu au derrière. Il ne m'a pas fallu plus de 5 minutes pour pagayer jusque là-bas. Je mets 3 fois plus de temps aujourd'hui, et encore, quand l'eau est calme. L'île n'est que rochers et broussailles côté terre, mais il y a une dune de sable fin côté golfe. Elle ne disparaît jamais. Depuis 80 ans que je me rends là-bas, elle n'a pas bougé d'un iota. Et vous n'avez pas trouvé de trésor, j'imagine. Si, d'une certaine manière, mais ce n'était ni des bijoux ni de l'or. C'était un nom tracé dans le sable de la dune. Comme avec un bâton, voyez-vous, sauf que je n'ai aperçu aucun bâton. Les lettres étaient profondes, et le soleil, en les emplissant d'ombre, les faisait ressortir, presque comme si elles flottaient. Quel nom, monsieur le juge? Je pense que vous devriez le voir écrit pour comprendre. Le juge prend une feuille de papier dans le premier tiroir de son bureau, écrit soigneusement, puis tourne la feuille pour que Waylon puisse lire. « Robbie LaDouche. » « Je vois, » dit Waylon prudemment. « N'importe quel autre jour, c'est avec ce garçon-là que j'aurais été à la chasse au trésor, parce que c'était mon meilleur copain. Et vous savez comment sont les meilleurs copains. »« Inséparable, » répond Waylon en souriant, se rappelant peut-être lui-même le bon vieux temps. « Comme les doigts de la main. » ajoute Beecher. Mais c'était l'été, et il était parti avec ses parents voir la famille de sa maman quelque part en Virginie ou dans le Maryland, ou sous d'autres cieux plus au nord. J'étais donc tout seul. Mais écoutez-moi bien, maître. Le véritable nom de mon ami était Robert la Doucette.
« Je vois », répète Wayland. Le juge pense que son « je vois » traînant, genre stratégie visant à laisser un témoin s'enliser, pourrait finir par devenir énervant à la longue. Mais comme il n'aura jamais vraiment à le découvrir, il laisse passer. C'était mon meilleur ami, et j'étais le sien. Mais nous étions toute une bande de copains, et tout le monde l'appelait Robbie le douche. Vous me suivez?
Je crois, oui, répond Wayland.
Mais le juge voit bien que non. Et c'est compréhensible. Beecher, lui, a eu beaucoup plus de temps pour réfléchir à tout ça, souvent lors de nuits d'insomnie. Souvenez-vous bien, j'avais 10 ans, et si l'on m'avait demandé d'épeler le surnom de mon ami, c'est exactement comme ça que je l'aurais écrit. Il tapote Robbie la douche du doigt. Se parlant presque à lui-même, il ajoute « Donc, une partie de la magie vient de moi, elle vient forcément de moi. La question c'est, jusqu'à quel point ?»
Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas écrit ce nom dans le sable ?
Non, je pensais avoir été clair.
Un autre de vos copains alors ?
Ils étaient tous de Nokomis Village, et aucun d'eux ne connaissait l'existence de cette île. Et jamais nous n'aurions eu l'idée de pagayer jusqu'à un bout de rocher aussi inintéressant. Robbie la connaissait, lui aussi était de Pelican Point, mais il était à des centaines de kilomètres au nord.
Je vois.
Mon copain Robbie n'est jamais revenu de vacances. Environ une semaine plus tard, nous avons appris qu'il avait fait une chute de cheval et qu'il s'était brisé la nuque, mort sur le coup.
Ses parents étaient dévastés. Et moi aussi.
Il y a un moment de silence pendant que Wayland réfléchit à ce qu'il vient d'entendre, pendant qu'ils réfléchissent tous les deux. Au loin, un hélicoptère balaie le ciel au-dessus du golfe du Mexique. La DEA à la recherche de passeurs de drogue, se dit le juge, il les entend tous les soirs. C'est le monde d'aujourd'hui, et d'une certaine façon, de bien des façons, il sera content de le quitter. Enfin, Wayland dit « Est-ce que vous êtes en train de dire ce que je pense que vous êtes en train de dire ?»«
Eh bien, tout dépend, » répond le juge. « Que pensez-vous que je sois en train de dire ?»
Mais Anthony Wayland est avocat, et refuser de se laisser influencer est une habitude tenace chez lui.
« Vous en avez parlé à votre grand-père ?»
Il n'était pas là le jour où le télégramme au sujet de Robbie est arrivé. Il ne restait jamais longtemps au même endroit. On ne l'a revu que 6 mois plus tard, peut-être plus.
Non, j'ai gardé ça pour moi. Et comme Marie, après avoir donné naissance au Fils unique de Dieu, j'ai médité ces événements dans mon cœur.
Et qu'en avez-vous conclu?
J'ai continué à pagayer jusqu'à cette île pour aller voir la dune.
Ça devrait répondre à votre question. Mais à chaque fois que j'y allais, rien. Rien de rien. Je suppose que j'étais sur le point d'oublier tout ça quand j'y suis retourné un après-midi après l'école. Et il y avait un autre nom écrit dans le sable, tracé dans le sable, pour être aussi précis qu'en salle d'audience. Et cette fois-là non plus, pas trace de bâton, même si j'imagine que quelqu'un aurait pu le jeter à l'eau.
Le nom était Peter Alderson.
Ça ne me disait rien. Jusqu'à quelques jours plus tard. C'était ma corvée d'aller chercher le journal au bout de la route, et j'avais pris l'habitude de parcourir la une tout en remontant l'allée, qui, comme vous le savez, fait bien 400 mètres de long. L'été, je vérifiais aussi comment se débrouillaient les Washington Senators, parce qu'à l'époque, c'était la seule équipe plus ou moins du Sud que nous avions. Ce jour-là, un gros titre en bas de la première page a attiré mon attention. Un laveur de vitres tué dans une effroyable chute. Le pauvre bougre était en train de laver les vitres au 3e étage de la bibliothèque municipale de Sarasota quand son échafaudage s'est effondré. Il s'appelait Peter Alderson. Le juge voit bien à la tête de Wayland qu'il prend ça ou pour un canular ou pour une espèce de délire sophistiqué que le juge s'amuse à faire traîner en longueur. Il constate aussi que Wayland savoure son verre, et quand il va pour le resservir, Wayland ne dit pas non. Et franchement, que ce jeune homme croit ou ne croit pas à son histoire n'est pas la question. C'est déjà un tel luxe de pouvoir la raconter.
Vous comprenez pourquoi je n'arrive pas vraiment à comprendre d'où vient la magie, reprend Beecher.
Je connaissais Robbie, et le surnom dans le sable était le surnom que je lui donnais. Mais ce laveur de vitres, je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam.
Toujours est-il que c'est à partir de ce moment-là que la dune a commencé à exercer une réelle emprise sur moi. Je me suis mis à y aller presque tous les jours, une habitude qui ne m'a jamais lâché. Je respecte cet endroit, je crains cet endroit et surtout, j'y suis accro. Au fil des années, quantité de noms sont apparus sur cette dune et les gens auxquels les noms appartiennent meurent toujours. Souvent, dans la semaine ou les deux semaines qui suivent, mais ça ne prend jamais plus d'un mois. J'en connaissais certains, et si c'est par leur surnom que je les connaissais, c'est le surnom que je voyais. Un jour, en 1940, j'ai pagayé jusqu'à la dune, et c'est Grandpa Beecher que j'ai vu tracer dans le sable. Il est décédé à Key West 3 jours plus tard, d'une crise cardiaque. Avec la mine de quelqu'un qui se prête au jeu d'un homme mentalement déséquilibré, mais par ailleurs inoffensif, Wayland demande « Avez-vous déjà essayé d'interférer avec ce processus ? Appelez votre grand-père pour lui dire d'aller voir un médecin, par exemple ?» Beecher secoue la tête. Je n'ai su que c'était une crise cardiaque que lorsque nous en avons été informés par le médecin légiste du comté de Monroe, n'est-ce pas ? Il aurait pu s'agir d'un accident ou même d'un meurtre. Il existait bel et bien des gens qui avaient des raisons de détester mon grand-père. Ces transactions n'étaient pas des plus honnêtes. Quand même. Et puis, j'avais peur. J'avais le sentiment, j'ai toujours le sentiment que là-bas, sur cette île, une trappe est entrouverte. De ce côté-ci de la trappe, il y a ce que nous nous plaisons à appeler le monde réel. Et de l'autre côté, il y a toute la machinerie de l'univers, tournant à plein régime. Seul un imbécile voudrait passer la main dans un tel rouage pour tenter de le stopper. Monsieur Beecher, à votre place, je ne dirai rien de tout ça si vous voulez que votre dossier soit validé par le tribunal des successions. Vous pensez peut-être qu'il n'y a personne pour contester votre testament, mais quand d'importantes sommes d'argent sont en jeu, les cousins au troisième et quatrième degré ont le don d'apparaître comme des lapins dans le chapeau d'un magicien. Et vous connaissez le critère consacré, être sain d'esprit. J'ai gardé ça pour moi pendant 80 ans, dit Beecher. Et dans sa voix, Wayland entend « objection rejetée ». Pas un mot jusqu'à aujourd'hui, et peut-être ai-je besoin de le signaler à nouveau, même si je ne devrais pas. Tout ce que je vous dis tombe sous le sceau du secret professionnel. « Je vois, dit Wayland. Entendu. » J'étais toujours excité les jours où un nom apparaissait dans le sable. Une excitation malsaine, sans aucun doute, mais je n'ai été terrifié par le phénomène qu'une seule fois. Ce jour-là, j'ai été si profondément terrifié que je suis reparti à Pelican Point en pagayant comme si j'avais le diable aux trousses. Voulez-vous que je vous raconte pourquoi ? Je vous en prie. Wayland soulève son verre et en boit une petite gorgée. Et pourquoi pas ? Après tout, des heures facturables restent des heures facturables. C'était en 1959. J'habitais encore Pelican Point. J'ai toujours vécu ici, sauf les années où j'étais à Tallahassee. Et je préférerais que l'on évite de parler de celle-là, même si je pense aujourd'hui qu'une partie de ma détestation pour ce trou perdu de province, peut-être même la plus grande partie, était simplement une nostalgie masquée pour l'île et pour la dune. Je n'arrêtais pas de me demander ce que je ratais, vous comprenez ? Qui je ratais ? Pouvoir lire des nécrologies à l'avance procure un sentiment de puissance extraordinaire. Peut-être trouvez-vous cela déplaisant, mais c'est comme ça. Donc, 1959. Harvey Beecher était avocat à Sarasota et vivait à Pelican Point. S'il ne pleuvait pas des trombes quand je rentrais le soir, j'enfilais de vieux habits et je partais jeter un coup d'œil à l'île avant le souper. Ce jour-là, j'avais été retenu au bureau particulièrement tard et le temps que j'arrive à l'île, que j'attache le canot et que je marche jusqu'à la dune, le soleil était en train de se coucher, énorme et rouge, comme souvent sur le golfe. Ce que j'ai vu m'a stupéfié. J'étais littéralement pétrifié. Ce soir-là, il n'y avait pas qu'un nom écrit dans le sable, mais beaucoup. Et avec cette lumière rouge du couchant, on aurait dit qu'il baignait dans le sang. Agglutinés, entremêlés, écrits les uns sur les autres, en haut, en bas. La dune tout entière était tapissée de noms. Ceux qui se trouvaient en bas, près de l'eau, étaient à moitié effacés. Je pense que j'ai crié. Je ne me rappelle pas exactement, mais oui, je pense que oui. Ce dont je suis sûr, c'est d'être sorti de ma paralysie et d'avoir couru comme un dératé jusqu'à mon canoë. Ça m'a semblé prendre une éternité de le détacher, et quand j'y suis enfin parvenu, je l'ai poussé dans l'eau avant même de monter dedans. J'étais trempé de la tête aux pieds, et c'est un miracle que je n'ai pas chaviré. Même si à cette époque, j'aurais facilement pu nager jusqu'au rivage en poussant mon canoë devant moi. Plus maintenant. Si je passais par-dessus bord aujourd'hui, ma vie serait écrite. Il esquisse un sourire, puisque nous parlons d'écriture. Alors je suggère que vous restiez à quai, au moins jusqu'à ce que votre testament soit signé et notarié. Le juge Beecher gratifie le jeune homme d'un sourire sombre. « Ne vous inquiétez pas pour ça, fils, » dit-il. Il se tourne vers la fenêtre et le golfe au-delà. Son visage est allongé et pensif. « Ces noms, je les vois encore, se bousculant sur cette dune écarlate. Deux jours plus tard, un avion de la TWA à destination de Miami s'est écrasé dans les Everglades. Les 119 âmes qui étaient à bord ont péri. La liste des passagers a été publiée dans le journal. J'ai reconnu certains noms. J'ai reconnu beaucoup de noms. Vous les avez vus? Vous avez vu ces noms? Oui. Suite à ça, je suis resté loin de l'île pendant plusieurs mois et je me suis juré de ne jamais y retourner. J'imagine que les toxicomanes se font le même genre de promesses, n'est-ce pas? Et comme les toxicomanes, j'ai fini par craquer et reprendre ma vieille habitude. Alors, maître, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai fait venir pour boucler mon testament et pourquoi ce soir? Wayland ne croit pas un traître mot de tout ça, mais comme beaucoup de récits fantasmagoriques, celui-ci a sa propre logique interne. Il est assez facile à comprendre. Le juge a 90 ans, son teint autrefois rougeau est aujourd'hui terreux, sa démarche jadis assurée est maintenant traînante et hésitante. Il est manifestement souffrant et il a perdu plus de poids qu'il ne peut se le permettre. « Je présume qu'aujourd'hui, vous avez vu votre nom dans le sable ?» dit Wayland. Le juge Beecher paraît momentanément surpris, puis il sourit. C'est un rictus terrible qui transforme son visage étroit et blafard en une tête de mort grimaçante. « Oh non, » dit-il, « pas le mien. » En pensant à W.F. Harvey,